France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Une heure ou presque pour intercepter et comprendre les signaux du changement dans ce monde toujours plus chamboulé qui met à l'épreuve nos logiciels d'analyse et nos certitudes. Cette semaine, tandis qu'une guerre a éclaté entre Israël et l'Iran, rougissant le globe d'une nouvelle zone d'affrontement, c'est l'ancien président François Hollande qui évoquait dans la matinale un risque d'embrasement du monde.
Si se joue, c'est non seulement l'avenir de cette région, mais c'est aussi l'équilibre du monde. Car si la force s'impose, comme elle s'est déjà imposée en Ukraine, si Israël va jusqu'au bout, au-delà de son droit légitime à se défendre et à empêcher l'Iran de disposer de l'arme nucléaire, oui, il peut y avoir un embrasement du monde.
Alors c'est justement à une spécialiste de l'avenir des embrasements du monde qu'on a voulu s'adresser. Directrice de recherche au Collège de défense de l'OTAN, son boulot c'est d'analyser des signaux de transformation. La futurologue qu'il nous fallait s'appelle Florence Gaube. Elle sera notre invitée exceptionnelle dans la première partie de cette émission. Et puis on a décidé de se tourner vers les étoiles, mais pas pour y faire la guerre.
L'homme aura toujours quelque chose à explorer.
Et l'espace, maestro ? On sait qu'il y a énormément d'étoiles et de constellations, mais des planètes avec le même climat que celui de la Terre. Est-ce qu'on en a trouvé ? Oui, et sur ces planètes, est-ce que la vie existe, maestro ?
Est-ce qu'on pourra y aller un jour ?
Toutes ces questions que posait le dessin animé Il était une fois les explorateurs il y a 30 ans n'ont jamais eu autant de chances d'avoir des réponses. Depuis ces derniers mois, on assiste à des avancées majeures avec la découverte de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de 4 planètes extérieures au système solaire. On est à la veille de découvrir s'il y a une vie ailleurs dans l'univers. Et avec la découverte d'une galaxie à 4,5 milliards d'années-lumière de la Terre, ce qu'on savait sur l'univers lui-même et son extension a été remis en question comme jamais depuis Einstein. Alors, entre le futur sur Terre et dans les cieux, c'est ce soir, dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
J'accueille d'abord Florence Gaube, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Rome où se trouve le Collège de défense de l'OTAN dans lequel vous êtes directrice de recherche en charge, disons, de prédire et prévenir les conflits et défis du monde. Vaste programme. Avant de parler des nombreux sujets qui nous intéressent aujourd'hui, est-ce que vous nous présenteriez votre métier ? En quoi il consiste ?
Alors, je crois qu'il y a un grand préjugé en ce qui concerne les futurologues. Ils pensent que nous, c'est comme les horoscopes, on prédit ce qui va arriver d'une manière assez vague. Mais en fait, la réalité, c'est que je compare toujours le processus à quand le matin, on se réveille, on réfléchit à la météo, qu'est-ce qui est prévu pour ce jour-là, etc. C'est exactement le même processus. On réfléchit à l'avenir, on essaie de découvrir tout ce qu'on sait déjà, on se pose les bonnes questions sur ce qu'on ne sait pas, et après on essaie de combler ces vides avec des scénarios. Et puis le plus important, c'est qu'après on prend une décision au présent, parce que c'est au présent qu'on influence le futur. Donc c'est en fait, en très bref, c'est mon métier.
Quel type de signaux vous analysez ? Comment vous présenteriez votre boule de cristal à vous, que sont l'analyse des signaux ?
En fait, il faut. Qu'est-ce qui rend le futur complexe ? C'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui peuvent arriver que qui vont arriver. Donc, le futurologue essaie toujours de réduire la complexité. Donc, d'abord, on regarde ce qui est établi, donc les tendances lourdes, les tendances en général. Et après, un signal faible, c'est le début d'une tendance. Donc, c'est un changement. Une tendance, c'est quoi ? C'est un changement qui est en train de se développer. Donc, un changement rend le futur plus imprévisible. Donc, on essaie de regarder quels sont ces petits changements qui sont en train de se faire. Ça peut être, par exemple, une nouvelle technologie, un nouveau comportement social, des changements, des flux de migration, de commerce, etc. Donc, on est un peu des détectives d'informations. On essaie de trouver qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est en train de changer.
Tous les indices du changement, et pour voir aussi ce que ça donnera en termes d'avenir marginaux. J'adore cette expression. C'est en partie votre spécialité, non ? Vous travaillez sur les avenirs marginaux, c'est quoi ?
Chacun d'entre nous conduit sa vie selon les avenirs probables. on ne va pas se poser tout le temps la question qu'est-ce qui est improbable. Ça, c'est pas, l'être humain n'est pas fait pour ça. Alors que nous, parce qu'en guerre, en conflit, tout ce qui est existentiel, l'improbable est très, très compliqué, enfin, très dangereux, parce que c'est de là où viennent les surprises, les mauvaises surprises notamment. Et donc, ce que vous avez décrit là, les avenirs marginaux sont des scénarios, je ne dirais pas signe noir, parce qu'un signe noir, c'est vraiment quelque chose qui est imprévisible.
Le signal noir, c'est quoi, par exemple, un exemple de signal noir?
Le signe noir, comme
l'animal. Le signe noir, ouais. Comme le signe.
Par exemple, comme le signe, voilà, c'est une expression courante chez nous, parce que jusqu'à ce que les Européens arrivent en Australie, ils pensaient que tous les signes sont blancs. Donc en fait, l'idée, c'est que si on n'a jamais rencontré ces phénomènes, on est incapable de s'imaginer. Beaucoup de gens disaient que la pandémie était un signe noir, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est un exemple? Nous, chez nous, par exemple, on est en train de travailler des scénarios comme, par exemple, une bombe nucléaire lancée de l'espace, ou en espace plutôt. Donc, ça aura des effets sur Terre. Ça, c'est un avenir très marginal. Un autre exemple, c'est, par exemple, un conflit, pas autour de Taïwan, parce que Taïwan, c'est tellement présent à l'esprit des gens que ça nous intéresse plus, parce que moi, je travaille vraiment sur les scénarios
les plus improbables.
Exactement. Par exemple, une occupation d'une île norvégienne qui s'appelle Svalbard par la Russie. Donc ça, c'est les scénarios qui sont un peu en dehors de la pensée traditionnelle. Donc ça, c'est les avenirs marginaux.
Et quel rôle joue la prospective dans la prise de décision politique aujourd'hui en matière de défense et de sécurité ?
Heureusement, actuellement, on est de nouveau dans une période lune de miel, parce que la prospective, il y a toujours des hauts et des bas, ça dépend un peu du contexte. Dès qu'il n'y a pas de crise, on pense qu'on n'en a pas besoin. Et dès qu'il y a une crise, on se tourne vers la prospective, justement, pour penser d'une manière plus structurée l'avenir que juste de dire « où j'ai un sentiment, j'ai une idée un peu vague ». Donc là, actuellement, heureusement, à l'OTAN en tout cas, et aussi dans certains États membres, heureusement aussi en France, le monde militaire s'intéresse beaucoup plus à la prospective. Donc, par exemple, en octobre, on a une grande conférence ici à Rome en coopération avec d'autres partenaires de l'OTAN. C'est la deuxième grande conférence de prospective de l'OTAN. Ça vous dit quelque chose sur le monde dans lequel on vit. Si on s'intéresse à la prospective, ça veut dire que les choses vont plutôt mal en général.
D'accord. Alors, quelles seront les conséquences de la guerre Iran-Israël, Israël-Iran ? Personne ne peut le prédire. Mais en revanche, en tant que futurologue de l'OTAN, Florence Gaube, vous travaillez sur des méga-tendances qui nous éclaireront. On va en reparler de guerre hybride, entre autres, tout à l'heure. Et sans trop m'avancer, je voudrais annoncer Théodora sur France Inter qui, à mon avis, fera danser tout le monde, tout le thé, avec ce titre en compagnie de Luigi. Go !
Tu suave, tu suave. Y a fait comme je dis go. S'il y a un péché à se faire, moi je dis go, go. Pour mes orphelins, mes enfants, je dis go, go. T'es autour, un peu slit, tu me donnes le go.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Un monde nouveau, toujours avec Florence Gaube, futurologue et directrice de recherche au Collège de Défense de l'OTAN en duplex de Rome. On se projette avec vous dans l'avenir des conflits à la surface du globe, tout simplement, et peut-être tout tristement aussi. On a vu ces derniers jours s'embraser un conflit entre l'Iran et Israël. C'est une région que vous connaissez. En quoi il est nouveau, cet affrontement, Florence Gaube ?
Alors, ça, justement, là, on revient dans le monde de la prospective. On aime bien les animaux pour décrire des événements de rupture. Donc, j'ai déjà parlé du cygne noir. Cette guerre-là, c'est ce qu'on appelle un rhinocéros gris. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un événement auquel on s'attendait depuis longtemps, mais personne n'a agi dessus. Moi, je me souviens, en 2008, la première fois que j'ai entendu parler d'une guerre possible entre l'Iran et Israël, justement au sujet de la bombe nucléaire iranienne, c'était en 2008. Donc, en fait, on parle de ça depuis la découverte que l'Iran est en train de préparer une bombe nucléaire. On s'attend depuis un bon moment. On a toujours pensé que c'est parce que les États-Unis ont retenu Israël que ça ne s'est pas fait avant. Maintenant, évidemment, la grande question qui se pose, c'est pourquoi maintenant et pourquoi et comment ça va continuer ? Et pourquoi maintenant ? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les négociations entre l'Iran et l'Union européenne et les États-Unis, l'Iran a continué le développement de sa bombe. Donc, en fait, on est aujourd'hui dans une étape plus compliquée que juste avant. Donc, si Israël avait déclenché cette guerre en 2004, ça aurait été beaucoup plus facile qu'aujourd'hui.
Et alors que là, les Américains disent, mais en 2 semaines, elle pourrait être prête, cette bombe, c'est ce qui est annoncé.
Voilà, mais en fait, on sait ça depuis 17 ans. Et justement, les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire, ce qui a permis à l'Iran d'accélérer ce développement. Donc c'est effectivement parce qu'on a trop attendu pour agir qu'on se retrouve dans cette situation-là.
On aurait dû vous écouter, vous, les futurologues de l'OTAN.
On aurait, ouais.
Alors, le conflit Iran-Israël, il pourrait dégénérer. On a parlé, évidemment, de l'implication ou non, du soutien ou non des États-Unis. Voilà, ce sera dans les semaines à venir, très rapidement. Mais il y aura d'autres acteurs qui peuvent entrer en jeu, comme le Hezbollah ou l'Arabie Saoudite. C'est ça, Florence Gaube ?
Alors, effectivement, le problème avec cette bombe iranienne, ce serait qu'en théorie, elle pourrait atteindre aussi le territoire européen. Donc, ça nous concerne aussi. Mais évidemment, l'ennemi juré pour l'Iran, c'est Israël. Donc, ça concerne avant tout Israël. Mais c'est vrai que les États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats, ça ne leur plaît pas du tout l'idée d'avoir un voisin nucléaire avec qui, déjà avant cette bombe, ça ne se passe pas très bien. Donc, si jamais les États-Unis attaquent l'Iran, les répercussions seront évidemment sur Israël, mais possiblement, si jamais l'Iran se sent aussi agressé par l'Arabie Saoudite et les Émirats, il y aura aussi des répercussions pour ces États-là. Et là, la question, c'est est-ce qu'ils vont répondre, pas répondre. La question, c'est quels sont les types d'attaques que les États-Unis prévoient, parce que s'il s'agit vraiment de détruire avant tout l'infrastructure nucléaire et que ça s'arrête là, on pourrait s'imaginer un conflit qui restera au moins restreint au niveau régional.
Mais il y a déjà eu des institutions aussi qui ont été détruites entre-temps. Donc ce serait plutôt la chute du régime qui serait visée au-delà du régime des Mollahs, au-delà de l'armement nucléaire.
Voilà. Donc comme en Russie, comme en Libye en 2011, comme en Syrie d'ailleurs après 2012, la question se pose toujours quelles sont les ambitions stratégiques ? Est-ce qu'on veut juste détruire ce programme ? Mais si le régime reste en place, pourquoi ce régime ne recommencerait-il pas juste après ? Par contre, le changement d'un régime, ça, on l'a vu plusieurs fois depuis 2001, c'est très compliqué. L'Irak, on se souvient, Libye, s'il n'y a pas une mise en place tout de suite après bien structurée, et c'est un engagement qui prend du temps, qui coûte très cher, il y a évidemment un risque d'instabilité très prononcé. Donc c'est pour ça les États-Unis maintenant sont en train de réfléchir parce que les deux solutions ne sont pas des très bonnes solutions.
Et cette formule qu'on écoutait dans le sommaire de l'émission de l'ancien président de la République française, François Hollande, sur l'embrasement du monde possible, vous en dites quoi, vous, en tant que futurologue de l'OTAN ?
Je regarde de très près la réaction de la Russie, parce que la Russie et l'Iran, a priori, s'entendent très bien. On a vu qu'en Ukraine, il y a une coopération très prononcée, notamment par rapport aux drones. Donc, mais ce qu'on voit, c'est que la Russie, jusqu'ici, ne répond pas ou ne prend pas le parti de l'Iran. Donc, tant que ça reste comme ça, je crois que l'embrasement international restera limité. Par contre, c'est vrai que si la Chine et où la Russie décide que c'est encore une de ces guerres que l'Occident nous impose, là, effectivement, je vois, il y a un risque, mais je ne suis pas d'accord avec François Hollande, je ne pense pas que ça atteindra ce niveau-là.
On va parler avec vous, Florence Gaube, maintenant qu'on est presque rassurés, de la forme de la guerre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous observez de près. On assiste notamment, là, dans le cas du conflit Israël-Iran, à une guerre de propagande sur les réseaux, avec beaucoup d'éléments générés par les intelligences artificielles, ou aussi récupérés sur le net, mais qui correspondent à d'autres conflits, et parfois aussi qui sont tirés de jeux vidéo. Ça fait des millions de vues, à tel point que certaines images synthétiques cumulent plus de vues que des photos authentiques prise sur le terrain, signalent nos confrères d'RFI. C'est quoi ce point de bascule sur les images ?
On voit deux choses. On voit d'un côté le matériel, enfin la production de ces images est beaucoup plus facile, mais en même temps, il y a une manipulation, une compréhension très intelligente de ce qui intéresse l'être humain. Parce que ça part de ça. La guerre cognitive, donc c'est la tentative de contrôler ou d'influencer vos sentiments, vos décisions, vos points de vue, elle comprend surtout qu'aujourd'hui, l'être humain s'intéresse beaucoup plus, toujours plus aux autres êtres humains. Donc, on met en avant la souffrance des citoyens iraniens ou en Palestine. Enfin, je ne veux pas nier cette souffrance, mais je dis qu'il y a quelqu'un qui utilise ces images exprès. Et le problème qu'on voit, c'est que évidemment, ça influence l'opinion publique alors que ces images sont fausses.
Et qu'est-ce que vous appelez alors la guerre hybride ? C'est aussi une guerre qui est fabriquée à partir de ces fausses images ?
La guerre hybride, cette expression décrit toutes les actions qui sont officiellement pas décrites comme guerre, c'est-à-dire pas forcément une destruction intentionnelle avec de l'équipement militaire, mais ça peut être justement information, ça peut être une attaque cyber, ça peut être une attaque de l'infrastructure, l'eau, l'électricité, etc. Donc ça peut, c'est tout ce qu'on appelle un peu plus soft, mais qui va quand même être un acte déterminé, agressif, pour influencer le comportement de l'opposant.
Et à l'horizon, c'est un cumul des deux, c'est-à-dire une guerre, entre guillemets, dématérialisée et une guerre matérialisée qui se profile.
Oui, exactement. En fait, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux. Je crois qu'avant la guerre en Ukraine, on pensait que ça serait que hybride parce que, soi-disant, l'idée, c'était que les États aujourd'hui n'ont plus envie de se faire la guerre de manière classique. On est tous trop riches et on n'a pas envie de mourir, en gros. Mais avec la guerre en Ukraine, on a compris que non, c'est en fait, le vainqueur sera celui qui maîtrisera les deux domaines, classiques ainsi que hybrides et nouveaux.
Et comment on se prépare, nous, en termes de stratégie pour y répondre à ces enjeux de guerre hybride ? Et est-ce qu'on est bien préparé à ce jour ? Puisque reprenons un peu d'avance, Florence Gaube.
Alors, je crois qu'il faut être honnête là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore trop tard, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les autres, et je pense notamment à la Russie, mais aussi à la Chine, ont bien avancé. Bien avant nous, ils ont reconnu le potentiel de ces méthodes. Nous, on a beaucoup avancé en ce qui concerne la résilience de l'infrastructure, donc tout ce que je disais, l'électricité, l'eau, la protection, etc. Par contre, on est encore très, très. On a beaucoup de travail à faire sur tout ce qui est cyber-offensif. Donc nous, on est défensif, on protège le cyber, mais l'autre côté, ils s'en servent pour nous agresser. Et ça serait bien d'avoir une capacité dissuasive aussi. Dans ce sens, je pense, la France a une capacité cyber-offensive, mais pas les autres. La grande majorité des autres États membres ne l'ont pas.
Donc, il faudrait une alliance cyber-offensive au niveau de l'OTAN.
Je suis pour, mais on me dit que l'OTAN fait pas de l'offensive. Mais parfois, vous voyez, ces deux mondes, en fait, c'est pas très clair qu'est-ce qui est l'offensive et qu'est-ce qui est la défensive au XXIe siècle. Donc, je pense que c'est pas très bien pensé.
Un exemple de cyber stratégie cyber-offensive pour nous.
Quand jamais un État membre comme la France utilise ces manières contre un autre pays, ils ne vont pas en parler. Moi, je dis qu'il faut en parler parce que la dissuasion vient de là. La dissuasion, ce n'est pas avoir les armes, c'est les avoir et d'en parler et dire et montrer à nos ennemis potentiels. S'il te plaît, n'y pense même pas parce que ça pourrait te faire très mal. Donc je pense que ça serait une bonne approche.
Dans cette discussion, il y a évidemment quelque chose qui a changé. C'est le rapport des alliances, la multipolarité, la réduction d'influence du rôle des États-Unis. Vous aviez anticipé ça dans un précédent rapport. Qu'est-ce que ça génère dans le monde, cette multiplication des puissances ?
Il y a une théorie de relations internationales qui date des années 50 qui dit qu'en gros le monde bipolaire est plus stable que le monde multipolaire. Mais en fait, les études montrent que ce n'est pas vrai. Par contre, ce qu'un monde multipolaire ou multilatéral, si on veut, nous impose, c'est la capacité diplomatique de gérer des alliances qui sont très souvent très flexibles. C'est-à-dire, on peut être ami avec un pays sur le changement climatique, mais ennemi sur un autre sujet. Et donc, c'est pour pour ça, moi, je pense qu'il ne faut pas que penser dépenses militaires, mais aussi diplomatiques.
Donc, des alliances multiples et variables. On rentre dans la grande agilité,
exactement,
si je puis me permettre.
Exactement. La grande agilité, c'est très bien dit. Ouais.
En 2019, vous aviez publié donc un rapport très commenté sur le monde en 2030 et vous aviez prédit que la Russie poserait problème à l'Europe. Mais vous n'aviez pas anticipé que ça serait carrément un problème de l'ordre d'une guerre aux portes de l'Europe en Ukraine, non ? Ça vous a surpris de voir à quel point vous l'aviez vu, ce rhinocéros gris ?
Alors, oui, c'est
quoi comme animal, ça, dans le bestiaire des futurologues ?
Alors, ça dépend à qui vous parlez, justement, parce que le cygne noir de l'un et le rhinocéros gris de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai revu récemment ce rapport, je me suis rendu compte à quel point nous étions très perspicaces, parce qu'effectivement, nous n'avons pas prédit une guerre en Ukraine, mais nous avons dit qu'une guerre interétatique est probable au cours de la décennie, tout simplement parce que d'un point de vue statistique, c'est la règle. Mais on a certaines choses, on n'a pas du tout vu. On n'a pas vu, par exemple, que l'espace sera un domaine militarisé. On parle brièvement de l'intelligence artificielle, mais pas du tout au niveau qu'on voit aujourd'hui. Donc, il y a certaines choses qu'on n'a pas vu venir, mais en gros, c'est quand même un rapport avec le recul, je pense qu'il est très bien fait. Et justement, il montre l'utilité de la prospective. Parce que ça peut nous permettre de voir et d'agir surtout bien en amont.
Pour les 75 ans de l'OTAN, vous avez co-signé aussi un roman graphique, NATO 2099. À quoi ressemblera l'OTAN en 2099 ? Et il y a un des conflits futurs qui revient beaucoup, ce sont les guerres océaniques. Ça, c'est quelque chose auquel il faut se préparer, Florence Gobbe ?
Je pense que oui, tout simplement parce qu'on voit que les pays qui sont en train, où les trajectoires sont en train d'être en collision, on va dire, c'est notamment la Chine et les États-Unis, mais même la Russie avec le changement climatique, la mer Nordique est en train de s'ouvrir. Donc les contentieux vont se dérouler surtout quelque part en mer, c'est-à-dire sous la mer, c'est-à-dire les câbles, les sous-marins, mais aussi d'une manière générale. Et aujourd'hui, déjà, la Chine est à la marine la plus grande du monde et aussi la capacité de construire des navires beaucoup plus vite que nous. Donc ça, c'était une analyse faite par 40 auteurs de science-fiction et on voyait des éléments de guerre maritime dans chacun.
Notamment avec la fonte des icebergs aussi augmentant le niveau de la mer et multipliant en fait la surface, tout simplement.
C'est ça, et aussi la dimension température, parce que la température de l'eau, un océan plus chaud, fait que les sous-marins nucléaires sont plus compliqués à détecter. Donc au nord de la Finlande, vous avez plus ou moins 40 sous-marins russes nucléaires. Ça, c'est un danger si vous ne savez pas où ils se trouvent en fait.
Alors, puisqu'on parle de prospective, on voudrait conclure sur cette très très belle archive qui est signée Rob Hopkins, fondateur du mouvement de la transition. L'écoute, c'est dans le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Pour devons-nous imaginer le futur autrement que la fin du monde ?
C'est fascinant comment, en tant qu'espèce et culture, nous sommes doués pour imaginer notre propre extinction et notre disparition. On fait des films, on se fait exterminer par des zombies, des bombes atomiques, des maladies, des robots, des aliens, de drôles de petits gremlins, toutes sortes de trucs, on adore ça. Mais où sont les films qui montrent comment résoudre le problème ? Il n'y en a pas. On ne sait pas les faire. Quand les scientifiques nous disent « Si vous voulez maintenir la biosphère dans les limites qui ont permis l'apparition des civilisations et tout ce qu'on associe à notre histoire », il faut commencer par réduire nos émissions de 8 à 10% par an. Mais on n'a pas les récits qui racontent ça. Nous voyons cela comme une perte, une dégradation. Si vous dites, comment ce sera dans 20 ans si on se mettait à réduire nos émissions, beaucoup se voient dans une grotte glacée avec des pâtes pourries. La fin du monde. Mais ça pourrait être génial.
C'était en 2015. A story of less. Une histoire de perte, une histoire de moins. C'est ça, pour l'instant, la représentation d'un avenir, on va dire, qui serait plus sobre, qui serait plus raisonnable sur le plan des dépenses énergétiques et de CO2. Donc, il faut imaginer comment ce serait un avenir de plus si on en faisait moins. C'est ça le gros enjeu.
Je suis 100% d'accord. Oui, en fait, je crois qu'il y a un vrai problème de storytelling. D'un côté, c'est vrai que les dystopies se racontent plus facilement que les utopies, parce qu'une dystopie, il y a une tension et il y a une histoire à raconter, alors qu'une utopie où tout se passe bien, c'est pas une histoire. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a un aspect un peu fétichiste, un côté prendre plaisir au pessimisme, qui fait que en fait on nous prive de cette sensation de puissance, de pouvoir agir sur ça, d'influencer ce qui est en train de se passer. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que depuis l'année dernière, dans l'encyclopédie de la science-fiction, nous avons un nouveau terme officiellement, c'est le solar punk. C'est un mouvement de science-fiction qui justement en a marre de cette dystopie perpétuelle et qui invite à une réflexion sur comment gérer le changement climatique avec la technologie, donc solar, mais aussi avec la communauté humaine. Donc, c'est pas du tout cette fascination technologique des années 80, mais c'est un mélange entre l'être humain qui est dans sa communauté, mais qui, grâce à la technologie, réussit à vaincre ce grand défi. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à des films, à des livres, des BD qui terminent cette obsession un peu dystopique avec tout ce qui est en train de se passer. J'espère, en tout cas.
Le solar punk, ce sera votre dernière prévision du jour. Florence Gaube, directrice de recherche au Collège de Défense de l'OTAN, merci infiniment d'avoir été avec nous en duplex depuis Rome. On conseille aux auditeurs de découvrir le roman graphique NATO 2099. Et si vous voulez, vous pouvez même le faire gratuitement puisque vous allez sur le site de France Inter à la page d'Un Monde Nouveau. On vous a glissé un petit lien. Vous restez avec nous dans Un Monde Nouveau. On va se projeter dans les étoiles. Quelques notes de piano et la nuit pour paysage, même si ce soir elle sera courte, solstice d'été oblige. Andrea Laszlo de Simone, un des plus grands artistes de notre temps, nous a plongé sous le ciel étoilé quelques instants sur Inter avec la notée.
France Inter, Mathilde Serrel, Un Monde Nouveau.
Et pourquoi devrions-nous observer les étoiles plutôt que d'essayer de les conquérir? Oui, c'est la question qu'on a envie de se poser. Et pour en parler, j'accueille deux invités. David Elbaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes astrophysicien au CEA de Paris-Saclay et vous avez signé récemment une BD, vous aussi, Alma, voyage initiatique d'un astronome en Terre Inca, illustrée par Mathieu Fauré aux éditions Alizio. Vous êtes actuellement sur scène aussi à Paris. Oui, vous avez un show, un spectacle, ça s'appelle Dans les étoiles. On en reparlera. Zobrolos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes créateur de contenu sur les réseaux, plus d'un million d'abonnés sur TikTok, et vous y faites de la vulgarisation autour de l'astronomie. Vous êtes même un collaborateur régulier de l'Agence spatiale européenne. Soyez les bienvenus à tous les deux dans le vaisseau d'un monde nouveau. Une question d'abord, dans ce contexte d'incertitude planétaire, à quoi ça sert de prendre le temps de regarder en plus les étoiles? On commence par qui? Par vous, David Elbaz.
Oui, vous savez, depuis la nuit des temps, on se pose la question de savoir ce qu'on fait là. Et on regarde le ciel. Et avant, les anciens regardaient le ciel, ils attendaient une réponse, et puis la réponse n'était pas venue. Et puis en 1859, il y a quelqu'un qui s'appelle Gustav Kirchhoff qui a compris comment lire le langage de la lumière. Comment on pouvait savoir ce qu'elle nous raconte, cette lumière. Qu'il y a des atomes, comme sur Terre, que le soleil contient des atomes, comme le sel, il a trouvé. D'ailleurs, si le soleil, on pouvait le goûter, il aurait un goût salé. Et puis progressivement, on a commencé à raconter l'histoire de l'univers qui est devenue notre histoire. Et donc là, pour tout le monde, être confronté à ce regard sur le ciel nous apporte une histoire qui nous relie. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve fondamental dans le travail d'astrophysique, c'est justement ça, cette idée que on a un défi, c'est de comprendre nos origines, comprendre d'où on vient, comprendre l'univers. Et ce défi, ça nous oblige à communiquer les uns avec les autres. Et ça, le langage de la science, c'est ça pour moi qui est l'avenir pour se sortir des conflits dont vous parliez tout à l'heure.
C'est l'humaine condition qui est la même pour tous que de vivre sous ce grand ciel et d'essayer de le comprendre.
Voilà, exactement. Et jamais on a fait autant de progrès sur la compréhension de l'univers qu'aujourd'hui.
C'était l'idée de Platon aussi, hein, de regarder ce cosmos pour mieux comprendre nous, notre microcosmos. Vous, Zobrolos, comment est-ce que vous aviez tout d'un coup décidé de prendre le temps de regarder les étoiles? Vous avez quel âge d'ailleurs?
J'ai 20 ans.
20 ans. Ça a commencé comment?
Alors, moi, je voulais devenir astronaute quand j'avais 13-14 ans. Et je me suis dit, je vais prendre de l'avance. J'ai commencé à apprendre des choses en rapport avec l'astronomie. Peut-être que ça va m'aider pour plus tard. Et finalement, en fait, je suis tombé dedans. J'ai commencé à apprendre comment les étoiles se formaient, comment elles mouraient, comment l'univers était né, etc. Et en apprenant plus de choses, je me suis passionné pour ça, en fait. Et donc, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, j'ai vu que ça a plu tout de suite. Et puis, j'ai continué. Et plus j'ai tiré la corde, plus j'ai appris de choses. Et voilà.
On écoutera un échantillon de ce que vous faites sur les réseaux. Vous demandez aussi souvent à votre communauté ou à vos spectateurs, tout simplement, web spectateurs, d'où ils viennent, quel est leur métier, pourquoi et qu'est-ce qu'ils vous répondent d'ailleurs?
J'aime bien interagir avec les gens, alors là c'est plus pour interagir avec ma communauté parce que j'aime bien savoir qui me suit, qui me regarde, parce que souvent c'est ça peut être des scientifiques, ça peut être des étudiants.
Il y a des professeurs aussi.
Il y a des professeurs aussi, mais en fait je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui s'intéressent à l'astronomie, ça peut être des boulangers dans un village, ça peut être des agriculteurs, enfin peu importe, il y a vraiment même des enfants, je sais qu'il y a des enfants de 6-7 ans qui me regardent et qui m'écoutent, et je trouve ça génial, même des gens qui ont 60-65 ans. Donc, il y a tout âge, il y a tout type de personnes et je trouve ça génial.
Ce lien, il se fait donc, David Elbaz. Il y a une recrudescence de la passion pour l'astronomie aujourd'hui?
Oui, alors peut-être aussi parce qu'on vit une période un peu difficile. Bon, peut-être qu'à toute époque on disait ça, mais la pandémie, les guerres, etc. Et quand on regarde le ciel, finalement, on voit le même ciel tous. Et les gens, ça leur fait du bien. Quand on leur raconte des histoires sur l'univers, moi, il y a eu des moments où j'ai donné des conférences où j'ai eu un peu honte de venir parler aux gens parce qu'il se passait des choses tellement importantes dans le monde que je me disais, mais comment je peux venir oser parler, moi, des étoiles, des galaxies, des planètes, etc. Et puis les gens sont venus me voir à la fin, ils m'ont dit, vous savez, ça nous a fait tellement bien, continuer. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, c'est un langage qui n'est pas clivant, qui apporte à tous, et on a un besoin, je pense que de la même manière qu'on a besoin de manger, de dormir et de boire, on a besoin de comprendre. C'est un besoin vital. Et on ne le nomme pas, mais ça fait du bien.
Zobrolos, c'est ce que vous avez ressenti aussi dans la façon dont ça réagit à vos vidéos et puis comment ça a pris aussi, parce que c'est impressionnant quand même d'être suivi par un million de personnes sur TikTok.
Je sais pas si c'est vraiment impressionnant, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné au début, parce que je pensais que ça allait intéresser 3-4 personnes, dont ma famille.
Et, merci maman de liker.
Bah, c'est un peu ça, mais finalement non, et j'ai été le premier surpris de voir qu'il y avait autant de gens qui pouvaient s'intéresser. Après, quelque part, comme vous l'aviez dit, c'est quelque chose qui nous unit tous. Je pense que n'importe qui se retrouve en soirée un soir d'été à observer les étoiles et trouve ça génial. Enfin, en tout cas, je connais personne qui me dira qui trouve ça moche, quoi.
Ça regarde un peu moins son téléphone portable, peut-être l'été. Il y a un peu plus de temps pour les étoiles, mais avec vous, il y a les deux. C'est ça qui est pas mal. je voudrais qu'on parle d'actualité astronomique, puisque vous la suivez l'un et l'autre, cette actualité. Alors, on va parler de donc, cette découverte du télescope James Webb, qui a récemment capturé l'image la plus profonde de l'univers. Vous nous expliquez ce que c'est, David Elbaz, l'image la plus profonde de l'univers?
Bah, en fait, si, vous savez, avant, on recevait des lettres, avant qu'il y ait les téléphones portables, on s'envoyait des lettres. Alors pour les plus jeunes, bon, ils ne savent peut-être pas ce que c'est, mais en fait, c'est comme l'écran d'un téléphone portable, mais on peut écrire dessus et on se l'envoie. Et donc, une lettre, ça pouvait mettre des mois à arriver, parfois des années à arriver, le temps que ça voyage. Ben, nous, on reçoit des lettres de lumière qui nous viennent de très loin dans l'univers et elles mettent du temps à nous arriver. Et quand on regarde le fond de l'univers, en quelque sorte, on regarde les lettres les plus anciennes qui nous viennent des temps les plus reculés. Le James Webb, c'est l'outil ultime pour aller voir les plus anciennes lettres de lumière qui nous viennent du confin de l'univers. Et quand on fait des sondages profonds de l'univers, on part en quête de la première étoile, de la première galaxie. Donc là, c'est une étape de plus pour aller chercher le moment où sont nées les premières étoiles. Et là, on l'a peut-être trouvé pour la première fois. Une galaxie dont les étoiles sont les premières générations d'étoiles. Ça prouve qu'avant, il n'y avait rien.
D'accord. Et est-ce que ça remet en question ce qu'on savait jusqu'ici, notamment la théorie d'Einstein sur l'expansion de l'univers?
Alors, c'est une très bonne question. Einstein, c'est une catastrophe, ce type. Parce que
sympa.
Mais oui, parce qu'il
est pas là pour
il a écrit une théorie dont qui explique tout. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça fait un siècle que tout s'explique par la théorie d'Einstein. Et pour nous, donc, les scientifiques, on se demande quand est-ce qu'on sera le jour d'après Einstein? Quand est-ce qu'on sera enfin, non plus les enfants d'Einstein, mais qu'on va devenir des adultes? Et puis, là, maintenant, on commence à avoir des observations qui fleurissent un peu partout, qui commencent à questionner cette théorie-là. Et donc, est-ce que les observations de James Webb remettent en question la théorie d'Einstein pour l'instant? Non, pas à elle seule. Mais d'autres observations aussi viennent dans ce sens-là. Et donc, on est peut-être aujourd'hui, effectivement, en train d'entrer dans une nouvelle ère où il va falloir réinventer le monde.
Waouh, ça donne envie. Zobrolo, sans quoi c'est crucial de comprendre les galaxies anciennes, d'ouvrir ces lettres de lumière qu'on reçoit 4 milliards et demi d'années après?
L'idée, c'est de comprendre plein de choses, notamment la formation des jeunes étoiles, la formation des planètes. Et par exemple, dernièrement, il y a une galaxie à 5 milliards d'années-lumière qu'on a observé, et on a vu qu'il y avait des sortes de poussières de glace, donc des poussières recouvertes de glace, donc il y avait de la glace d'eau notamment, et c'est la première fois qu'on fait une telle découverte, parce que, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait cette poussière de glace, c'est elle qui a permis la formation par exemple de la Terre, donc la formation de planètes, et c'est la première fois qu'on se rend compte que cette poussière de glace existait déjà ailleurs, dans une autre galaxie, il y a 5 milliards d'années. Et ça, c'est tout bonnement incroyable. Donc le fait d'observer d'autres galaxies, le fait d'observer l'univers de manière générale, ça nous permet d'apprendre énormément de choses sur nos origines notamment.
Il y a cette idée, David Elbaz, que l'univers ne serait peut-être pas comme ça parti en expansion, mais qu'il aurait eu un moment de rétrécissement. Ouais, c'est ça, on a toujours imaginé une ligne plus.
Oui, écoutez, on essaye de prédire. Vous savez, avant, les astrologues essayaient de prédire l'avenir. Alors, les astronomes aussi, ils essaient de prédire l'avenir, non pas des humains, mais l'univers. Et pendant longtemps, on pensait que l'avenir de l'univers, c'était d'une expansion qui continuerait comme ça, et ça serait une espèce de frigidaire, il ferait froid, il n'y aurait plus rien. Et le 19 mars 2025, une conférence de presse a été faite par une équipe américaine avec un télescope qui s'appelle DESY, et qui suggère que peut-être pas. Pour la première fois, on se dit peut-être que l'univers reviendra en arrière et va se recontracter. Mmh. On n'est pas encore certain complètement de ça, mais ça prouve que le futur change tous les jours avec les observations qui arrivent.
On va écouter un extrait de ce que vous faites, Zobrolos, sur les réseaux. C'est parti, c'est à la fois poétique et scientifique.
Quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer son trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes. Ces étoiles-là, elles appartiennent à aucun système, à aucune galaxie. On pense que la moitié des étoiles dans l'univers sont des étoiles vagabondes. Elles n'ont pas de maison et parcourent une trajectoire quelconque dans l'univers, jusqu'à peut-être un jour. rencontrer une autre galaxie. On vient tout juste de découvrir quelque chose de fou. On a découvert le trou noir supermassif le plus vieux de l'univers. Et c'est donc le plus lointain qu'on ait pu détecter jusqu'à aujourd'hui. Ce trou noir aurait plus de 13 milliards d'années. En gros, ça voudrait dire qu'il serait né seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Autrement dit, quand l'univers était encore en pleine formation, ce trou noir se serait formé et aurait englouti énormément de matière. Donc c'est littéralement le plus vieux, mais ce trou noir est aussi extrêmement massif. Alors évidemment, découvrir un trou noir aussi massif et aussi vieux, ça pose problème. Comment c'est possible qu'il ait pu exister un tel trou noir aussi massif alors que l'univers n'était qu'à son commencement? Comment ce trou noir aurait-il pu grossir autant? Parce que oui, en fait, on ne sait pas vraiment comment se forment les trous noirs supermassifs, mais on a des théories. On pense qu'ils se forment au fur et à mesure du temps. En gros, exemple, imaginez une étoile très massive qui meurt et qui se transforme en trou noir. Ce trou noir va ensuite grossir de plus en plus en engloutissant du gaz, des planètes, des étoiles et même d'autres trous noirs. Il va donc augmenter en masse, bref, c'est littéralement agario. Mais le problème, c'est qu'en seulement 400 milliards d'années, un trou noir ne peut pas devenir aussi massif. L'échelle de temps est beaucoup trop courte pour ça. Ou alors, il a englouti énormément de matière en très peu de temps, et là, ça défie un peu ce qu'on pensait à la base des trous noirs. Alors bon, évidemment, il y a d'autres théories et des recherches qui sont encore en cours, mais pour ça, je vous tiendrai au courant.
Quel est le regard de l'astrophysicien, donc, de formation et de métier par rapport à ce travail aussi de vulgarisation et d'autodidacte de Zobrolos, David Elbaz, par rapport au phénomène qui vient d'être expliqué?
Eh ben, tout ce qu'a dit Zobrolos est tout à fait correct et très intéressant et très bien dit. Je le félicite. Je suis très content qu'il fasse ça parce que ça diffuse l'information et c'est très bien. Et alors, ce dont il a parlé, les extraits que vous avez choisis, en plus, c'est exactement mon sujet de travail. Juste à dire que, avant de venir ici parler avec vous, j'étais en téléconférence internationale pour parler de l'article de mon étudiant pour essayer de comprendre justement ces galaxies qui sont peut-être trop massives. Est-ce qu'elles ont eu le temps de se former? Puis en fait, on se dit, ben non, c'est peut-être pas des galaxies, c'est peut-être des trous noirs et des trous noirs qui se forment de manière spontanée, etc. Donc, on est en train de réinventer le passé pour comprendre le futur, et c'est extraordinaire parce que c'est en pleine effervescence. Mais pour ça, il a fallu la bagatelle de 10 milliards de dollars pour faire le télescope le plus puissant du monde, le James Webb.
Ouais.
Voilà. Donc ça se fait pas comme ça en un clin d'œil, en regardant en se disant, tiens, je vais changer de lunettes. Il faut quand même un petit peu de... Et voilà. Alors les décisions qui sont en train d'être prises en ce moment aux États-Unis mettent à mal le futur de l'astronomie.
Par rapport, vous voulez dire, aux recherches scientifiques et aux coupes budgétaires.
Aux coupes budgétaires qui pourraient être de l'ordre de 70% pour la NASA et qui pourraient avoir des implications comme on l'a jamais vu.
Une réaction de Zobrolos sur les trous noirs. Moi, c'est là-dessus que j'ai envie de vous entendre, parce que c'est votre fascination à vous. C'est vrai que David Elbaz travaille aussi dessus, et c'est celle de votre communauté, non? Il vous pose énormément de questions sur ça. Le trou noir, c'est un peu la star, la star dans les contenus sur les réseaux qui parlent d'astronomie.
C'est le sujet dont je parle le plus, je pense, parce qu'on me pose beaucoup trop de questions par rapport à ça. Oui, les trous noirs, c'est quelque chose de fascinant, et c'est ce qui me fascine aussi. Pourquoi? Parce qu'on se pose tellement de questions. Comment le temps s'écoule aux abords d'un trou noir? Qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur? Et surtout parce que les théories qui permettent d'expliquer un trou noir, donc les théories d'Einstein, sont vachement limitées dès qu'on passe une certaine limite dans le trou noir. Au bout d'un moment, on arrive à une limite, on comprend pas, on sait pas. La physique qu'on connaît s'arrête une fois qu'on entre dans un trou noir. C'est un grand mot, mais c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre ce qu'il s'y cache. Et pour comprendre ça, il faudra encore des années de recherche encore, quoi.
Qu'est-ce qui fascine tant sur les trous noirs, autour des trous noirs, dans les trous noirs, David Elbaz?
Ben, en fait, on vit dans un monde où les lois de la physique s'imposent à nous de manière inévitable, imparable. Maintenant, on est attiré par la Terre, par la loi de la gravité. On ne peut pas échapper à tout ce qui est définitif. Et puis, il y a un endroit dans l'univers qui, si on y va, se joue du temps. Un endroit qui déchire l'espace-temps, un endroit où tout est possible. C'est comme si vous sautiez dans le trou de Alice au Pays des Merveilles, vous allez rencontrer un autre monde, ou comme dans Narnia, où vous ouvrez cette armoire qui vous amène dans un autre monde. Dans la physique d'aujourd'hui, le trou noir, c'est la porte vers tout est possible, mais des trucs de dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui étudient ce qui se passe à la surface d'un trou noir et qui se disent « mais attendez, c'est tellement dingue que peut-être que le monde est un hologramme et qu'on vit dans un monde à deux dimensions, d'après ce qu'on a compris là. D'autres qui disent que si je rentre dans un trou noir, je vais rebondir dans un autre univers, etc., etc. Et nous qui sommes des gens qui vieillissons, et moi je suis tellement contre la mort, je trouve que c'est tellement 2018, la mort, je veux dire, c'est quelque chose...
Sauf 2018
C'est tellement 2018 Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui nous dit, mais attendez, le temps n'est pas obligé de s'écouler. Et là, ça fait réfléchir. Donc, ça fait rêver. Ça ouvre la possibilité d'un imaginaire où tout est possible. Or,
tout redevient possible.
En fait, ce qui est extraordinaire dans la science et dans la recherche, c'est que bien sûr, chaque chose n'est pas possible, mais il y a un tout possible. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'accepter l'impossible comme étant possible pour voir quelque chose de nouveau. Le trou noir, c'est une porte ouverte qui permet de libérer l'imaginaire.
Et puisqu'on parlait d'impossible, je voudrais qu'on finisse sur cette actualité. Je l'évoquais dans le sommaire de l'émission. On a aussi découvert cette année, bascule 2025, du CO2, du dioxyde de carbone, dans l'atmosphère de 4 exoplanètes aussi. Donc on a relancé cette hypothèse plus que jamais d'une autre vie ailleurs dans l'univers, The Brolos.
Alors, c'est une très grande découverte, mais c'est vrai que ça ne fait pas tout. Parce qu'on a tendance à aller un peu trop vite et à dire il y a peut-être de la vie ailleurs en détectant juste des molécules, des sortes de traces un peu de la vie, des biosignatures. Mais ça ne fait pas tout, parce que ces molécules-là peuvent être produites par n'importe quoi. Mais ça peut être de la vie, mais ça peut être aussi autre chose.
C'est pas parce qu'il y a eu du CO2 qu'il serait créé de la vie.
Exactement.
Mais en même temps, David Elbaz, quand vous êtes venu sur cette antenne cette année, je vous ai entendu dire qu'on n'avait jamais été aussi près de découvrir la vie ailleurs dans l'univers.
Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que jamais on a eu les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui pour explorer ce qu'il y a dans l'atmosphère des autres planètes. Le dioxyde de carbone, c'est ce qui était présent sur Terre avant l'émergence de la vie. Et puis lorsque la vie est arrivée, eh bien, l'oxygène est apparu via la photosynthèse. Donc en fait, trouver la preuve définitive de la vie avec une molécule, c'est pas encore donné. Donc on sait même pas encore comment on va y arriver. Mais les moyens de comprendre quelle est la météo sur une planète qui tourne autour d'un autre soleil, de voir des molécules, on les a aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il est possible que là, demain, à 15h45, on trouve une planète habitable. Voire, à 15h50, on trouve la preuve qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Ou pas, ou dans 500 ans, on ne sait pas.
Merci à tous les deux. The Brolos, on vous suit sur les réseaux. On vous écoute aussi en podcast avec Mystère et Étoiles sur Spotify. David Elbaz, il y a votre BD. Alma, voyage initiatique d'un astronome en Terre Inca, illustré par Mathieu Fauré. Et puis, vous serez, on en disait un mot à l'instant, sur la scène du Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris pour votre spectacle Dans les Étoiles le 26 juin et tous les lundi à partir du 22 septembre avec donc des questions du public qui sont les bienvenues à la fin du spectacle. On signale aux auditeurs aussi que l'excellent podcast de Christophe Galfard, Les Explorateurs de l'Univers, est toujours disponible sur l'appli Radio France et sur la route des vacances d'été. C'est pas mal aussi pour se préparer à regarder les étoiles. On le retrouvera tout l'été dans le 6-9 de France Inter et à la rentrée tous les samedis à 11h pour une émission scientifique. Je remercie à nouveau notre futurologue de l'OTAN qui, elle, regarde les signaux terrestres, Florence Gaube, qui était avec nous en début d'émission. Et un grand merci à l'équipe qui a travaillé sur cette émission ici sur Terre et pendant une saison. La rédaction en chef Redouane Tella, la réalisation Maria Pasquier, la préparation Laura Dumès et la programmation musicale c'est Juliette L'Orphelin. À la technique cette semaine c'est Adèle Caglar et puis un grand merci à Marion Philippe, Frédéric Milano qui ne sont pas là mais qui nous ont accompagnés aussi tout au long de cette saison. Un monde nouveau, grand format, c'est fini mais vous nous retrouvez à 8h53 dès la rentrée. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances. À 18h10, ce sera avec Louise Aubry pendant l'été adolescence.